béni soit ton nom, ta miséricorde régnera pour l'éternité.
Nous allons aborder le problème de l'éducation. De l'éducation, quelque chose de très important. C'est le point de départ de la réussite d'une société ou son échec. Et c'est souvent un lieu de souffrance pour beaucoup quand ils n'ont pas été bien éduqués, bien conduits dans la vie. Et prenons, si vous voulez bien, Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc, voilà déjà une base pour savoir que l'homme a un désir de Dieu phénoménal. Parce que l'homme a connu Dieu. Avant le péché d'Adam et Ève, l'homme a connu Dieu. Et un des signes, par exemple, qu'il a connu la gloire de Dieu, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, vous voyez des bijouteries avec des diamants, des saphirs, des émeraudes et tout ça, vous voyez des pierres précieuses de toutes les sortes. Et vous voyez, c'est un commerce épouvantable même, qui rapporte beaucoup d'argent à certains. Et l'homme, surtout la femme, aime bien d'avoir des pierres précieuses sur elle, brillantes. C'est une image atavique, c'est un reste de cette gloire que nous avons perdue. C'est la même chose pour la robe blanche le jour du mariage. C'est une image, sans se rendre compte, de ce que l'humanité a perdu à cause du péché. Nous étions vêtus de blanc. Mais nous serons plus tard habillés de blanc pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et nous connaîtrons la Jérusalem céleste remplie de pierres précieuses. Et le trône de gloire de Dieu qui est comme un diamant, une pierre précieuse. Même les portes de Jérusalem seront une perle, une seule perle précieuse. Donc, vous voyez, le désir d'éternité, parfois n'est pas conscient dans les personnes, il n'arrive pas au niveau de l'esprit. En regardant la nature, il y a des gens qui ne voient que la nature, et d'autres voient la main de Dieu à travers la nature. À travers les diamants, à travers des expositions, il y en a beaucoup en Alsace, dans les Vosges, les pierres précieuses, parce qu'il y a eu des volcans là et tout ça, donc il y a énormément de choses là. Eh bien, pratiquement, il y a des gens qui voient la main de Dieu et d'autres pas. Donc, le principe, c'est que l'intelligence s'est abîmée, s'est dépravée, et que rares sont ceux qui ont encore cette sensibilité, cette... ce réflexe spirituel de se retourner vers Dieu avec toutes ces choses. Mais évidemment, il existe. Et nous pouvons rencontrer des enfants qui ont ce désir d'éternité en eux, des enfants qui sont extrêmement sensibles à ça. Ou alors, ce qui est le plus important, à mon avis, ce serait que l'éducation dans les couples, dans les familles, oriente les enfants qui n'ont pas forcément compris vers cette contemplation, vers cette découverte des merveilles divines. Et donc la première tâche de l'éducation est, à mon avis, d'alimenter le besoin d'éternité, le besoin de Dieu. Sans le déformer, évidemment. Tout le danger est toujours, lorsqu'on présente quelqu'un, Dieu, on le présente un petit peu avec une culture, avec une tradition. Et parfois, on déforme la notion de Dieu. Quand vous regardez des gens passer sur la route, suivant la voiture qu'ils ont, vous les voyez autrement. Si vous voyez passer une personne dans 50 voitures différentes, de la plus mauvaise qualité à la plus haute, vous verrez la personne différemment. Vous la regarderez autrement. Si vous mettez un troupeau de 100 personnes là qui est là et qui les regarde, que vous notez, vous demandez de faire leur appréciation, ils donneront une appréciation à la personne, ils ne reconnaîtront pas forcément la même personne. Parce que le véhicule donne un autre aspect de la personne. Et donc parfois, ce qui se passe, c'est que suivant la tradition religieuse, suivant les rites familiaux et tout, les préjugés religieux, on présente Dieu d'une manière ou de l'autre, et il devient quasiment méconnaissable pour certains. Il faut faire attention. Il faut faire attention que la notion de Dieu doit être épurée, elle doit être rattachée à la parole, pour ne pas tomber dans les travers des cultures, des traditions, etc. Ça, c'est extrêmement important. C'est, à mon avis, un besoin de grande honnêteté chez l'enfant qui désire Dieu ou qui va apprendre à avoir ce désir. Il faut qu'il ait en face de lui des gens extrêmement honnêtes au niveau de Dieu. Donc, dans le couple et dans les éducateurs, il en est de même. Il en est de même pour des responsables dans l'église, l'école du dimanche, pour les diacres, pour les enseignants, les pasteurs, etc. Pour tout quiconque veut témoigner, il en est de même. Il doit faire attention à lui-même, à ce qu'il apporte aux autres. Il doit apporter quelque chose de pur et de propre concernant Dieu aux autres. Et ne pas l'assaisonner de choses trop personnelles, trop déformantes. Ok ? Alors, nous regardons dans Proverbe chapitre 1, non, ce n'est pas loin, c'est un peu avant, avant Ecclésiaste, Proverbe chapitre 1, versets 1 à 9. Bon, on peut être étonné de ce que Salomon dit ces choses, les écrivent, alors que avec la vie qu'il a eue, c'est presque un paradoxe. Mais je veux vous dire que Dieu a inspiré Salomon. Dieu a conduit Salomon par son Saint-Esprit. Il lui a donné des enseignements qu'il a mis par écrit. Ce que dit une personne, ce que un prophète met par écrit dans son livre, n'est pas forcément le reflet de sa vie. C'est la même chose, si vous voulez, aujourd'hui, ou il y a 500 ans, quand quelqu'un parle de Dieu, il peut dire des choses très bien sur Dieu et ce n'est pas le reflet de sa vie. Ce n'est pas forcément la même chose. Faire attention, parfois, Dieu pousse quelqu'un à parler et dit des choses belles et saintes à propos de Dieu. Et si on gratte et qu'on commence à fouiller sa vie, on se demande un petit peu comment c'est possible. Il faut savoir que depuis qu'il y a eu le péché d'Adam et Ève, Dieu doit utiliser des moyens imparfaits, des moyens impropres, parfois même incapables, hein, du genre Jonas. Il doit, et nous aussi souvent l'est, il doit utiliser des moyens peu appropriés et il doit les utiliser pour faire voir sa gloire. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 8, que la lumière de Christ est mise dans des vases de terre. Des vases de terre. Et pourtant, nous brillons, l'enfant de Dieu, le chrétien, brille de la lumière de Christ à travers des vases non transparents. Ici, vous voyez ces bouteilles avec les fleurs, le verre est transparent. Mais vous voyez le mur, il n'est pas transparent. Eh bien, imaginez des vases de parois d'argile de 3-4 cm, eh bien, dans lesquels on met une lumière, la lumière de Christ. Eh bien, c'est vraiment ça dans 2 Corinthiens, chapitre 4 à 6. Donc, la notion de Dieu est découvrable à toute époque à travers, par la volonté divine, par l'effet de la grâce, à toute époque, à travers des moyens imparfaits. Donc ça nous force à l'humilité, évidemment. Et en lisant les livres des Proverbes, on doit accepter humblement que Dieu a conduit Salomon pour écrire, et que ce n'était pas forcément lui qui avait le brevet de sainteté, puisque Jésus a dit dans Luc chapitre 12 que les lys des champs étaient mieux habillés que lui. Ah oui, il y avait toute la couche de péché dans laquelle il vivait, mais la gloire des lys des champs est plus grande que celle de Salomon. Donc Dieu ne s'y trompe pas. Mais Dieu a utilisé Abraham, a utilisé tout le monde dans la Bible, et Salomon et David, voilà. Et aujourd'hui, nous n'avons pas, il faut que personne ne se prenne la gorge, se hausse pour dire je suis le meilleur, etc. C'est pas possible. Nous avons tous quelque chose qui est encore inachevé, et que pourtant Dieu nous utilise à travers ce que nous sommes. Il continue à faire quelque chose pour faire connaître sa lumière et son évangile, jusqu'au jour où il paraîtra. Alors, proverbe. Tout ça, c'est très important au niveau de l'éducation. Ça donne un désir de faire bien et en même temps, un esprit d'humilité et de prudence. Hein? Et c'est Dieu la vérité, c'est pas nous. Proverbe. Le proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Alors, seul Dieu a l'intelligence. Seul Dieu est intelligent. Alors, pour comprendre les paroles de l'intelligence, c'est les paroles de la révélation divine. C'est ça qui faut comprendre les paroles de la révélation divine. Où se trouve l'intelligence de Dieu, évidemment. Verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Donc, la base d'une éducation repose sur des paroles d'intelligence. Or, seul et intelligent, notre Dieu. Faisons attention de donner des broutilles, des belles phrases trouvées partout, etc., dans les poésies, tout ça pour les enfants. Ça se peut. Il faut éveiller leur sensibilité, ouvrir leurs horizons, leur donner une culture. Mais en tout cas, quand on enseigne la foi, il faut s'accorder sur une seule parole intelligente, celle de Dieu. Et pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, pleine d'intelligence, pleine de vérité, mue par le Saint-Esprit, dans sa révélation au prophète, mais en même temps, quand on la lit, dans l'illumination de notre cœur, dans la révélation de dans notre esprit, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui peut naître si nous sommes réellement honnêtes et que Dieu peut nous enseigner nous-mêmes, autant celui qui enseigne que celui qui reçoit et qui enseignera plus tard, des leçons de bon sens. Moi, je pense qu'une fois, lors d'un dimanche, un repas fraternel, si on a des groupes, on pourrait se demander et faire un carrefour, qu'est-ce que c'est que le bon sens, prenant cette tête. Et où ai-je eu du bon sens dans ma vie ? Et où n'en ai-je pas eu du tout ? Et faire un partage, on s'édifierait l'un à l'autre en se rendant bien compte qu'on est tous des apprentis et en train de... On se mord les doigts des fois parce qu'on a perdu beaucoup le bon sens. Oui, depuis qu'Adam et Ève ont péché. Mais parfois, à un moment donné, on l'avait, puis... Il y a une plage de notre vie, on avait beaucoup de bon sens, ça allait, c'était... Et puis tout d'un coup, hop, ça s'envole. Alors, ici, la parole de Dieu est faite pour que ça ne soit pas intermittent, que ce soit fragile, que ce soit éphémère, que ce soit constant. Donc, c'est du bon sens constant, stable. Hein? Ça rejoint ce que, ici, tout à l'heure, Michael a dit. Hein? La lumière... donne la stabilité. Et donc, moi j'ai pensé, quand Michael parlait, j'ai pensé à Jacques, que Dieu est le Père de toutes les lumières sans ombre ni variation. C'est une lumière qui est donc automatiquement, notre bon sens peut parfois être stable et il y a une maturité spirituelle qui peut arriver. Bon, pour moi, en tout cas, je n'ai pas encore lancé en route. C'est pas facile. Il y a toujours une part de folie en soi, hein. Eh oui. Et alors, recevoir des leçons de justice, c'est Dex, Adox, c'est la sainteté, c'est évidemment recevoir des leçons du Saint, de Dieu qui est Saint. Vous avez entendu les chants tout à l'heure d'Henri. Eh bien, la sainteté de Dieu veut nous être communiquée à travers son enseignement, par sa parole, par son témoignage, par son Saint-Esprit qui est vivant et qui touche nos cœurs. Et des leçons d'équité et de droiture, l'équité et la droiture, le mot de base en hébreu veut dire intégrité, accomplissement parfait. Hein? Noé est un homme droit, intègre, hein, par exemple. Eh bien, par exemple, dans Genèse, au chapitre 8, eh bien, pratiquement, ce qui se passe, c'est ça, c'est un don d'être dans une vie intègre, une vie conforme à la volonté de Dieu. Tout ça, vous voyez, vous avez le programme de l'enseignement chrétien. Alors, pour pouvoir devenir autonome, ce jeune, l'enfant, va évoluer, le chrétien aussi, hein, il va, au verset 4, il va y avoir des prérequis. C'est la simplicité de cœur, la simplicité d'esprit. C'est la simplicité d'âme. Anawim, les pauvres de Dieu. La vanité est contraire. Hein? L'ego, le narcissisme et tout le reste, la mise en valeur, la valorisation, la concurrence, l'émulation. Pourtant, c'est tout ce qui court dans le monde. Hein? Mais ici, donner aux simples, les simples vont pouvoir recevoir de Dieu du discernement, reconnaître le vrai du faux, reconnaître la présence de Dieu là où elle est et là où elle n'est pas, reconnaître parfois dans des choix, des décisions, ce qu'il ne faut pas faire, et faire, ou s'abstenir en attendant qu'on ne le sait pas. Et le discernement peut être aussi à propos du choix d'un conjoint, du choix d'un travail. Le discernement, ça peut être... je suis sur le point de faire un péché, puis tout d'un coup je vois clair et je suis au bord du gouffre, je m'arrête, je recule. Le discernement, c'est véritablement une clé de la vie spirituelle. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc on voit, et si vous reprenez la première épître de Jean, vous voyez, il parle aux anciens, aux jeunes, etc., aux adultes, d'une certaine manière, et on pourrait retrouver ça là-dedans. Donc, le discernement est quelque chose qu'il faut arriver à établir chez les enfants dans l'enseignement chrétien, dans une famille. Ça ne veut pas dire que si vous élevez un enfant, même chrétiennement, avec tout, et qu'il a eu le discernement, qu'il va obéir à Dieu. Il va peut-être avoir un jour le goût du péché et s'écarter pour plusieurs années, ou plusieurs jours, autre. Peu ou longtemps. Ça, c'est déjà donner la liberté. Il ne faut pas s'en mordre les doigts quand on a fait son travail, on l'a fait. Il faut savoir que c'est le risque quand on a des enfants. C'est le risque quand on a aussi, on éduque dans une école des enfants. Hein. Eh bien, c'est un risque énorme. L'enfant devra discerner après coup, en ayant fait mal, en s'étant égaré même parfois très loin, en ayant roulé dans le péché, il va se rendre compte que ce n'était que source d'affliction, de misère, d'échec, de souffrance. Et comme le jeune homme prodigue, il va revenir vers son Père des cieux, et il va s'avancer et il va voir que le Père, Dieu l'accueille. Hier, j'étais dans une chaise dans la chambre, il y a une chaise électrique, et je me reposais trois quarts d'heure. Et un fauteuil électrique, j'ai dit quoi?
Une chaise électrique.
Ah oui, non, c'est pas un cercueil électrique non plus. Donc le fauteuil électrique, j'étais là, et il est passé deux fois un office, et pour finir, peut-être qu'il avait envie la première fois, il ne l'a pas fait. Et la deuxième fois, quand il est passé, il est revenu à la charge un peu après et il m'a embrassé. J'étais couché, il m'a embrassé. Et franchement, il y avait si longtemps. Il y avait si longtemps que j'en ai pleuré quand il était parti. Je pense que Dieu pleure de joie quand il voit un de ses enfants revenir à lui. Je pense que Dieu pleure de bonheur quand il voit des pécheurs revenir à lui. Si on imagine à quel point Dieu nous aime, c'est incroyable. Et à quel point il attend le retour de nous, les enfants prodigues. Je pense que le discernement, même s'il est enseigné, on le met de côté, parce qu'il y a en nous l'œuvre du péché, de la folie. Et puis, mais quand même, ce qui a été semé, ce qui est là, nous permet de revenir. On sait qu'il y a la lumière quelque part, mais on l'a rejeté, et puis on y revient. Et le discernement, c'est j'y retourne. Je retourne vers la lumière, je retourne vers mon Père des cieux, je retourne vers Jésus, je retourne vers sa parole, je retourne vers mes vrais amis qui ont la foi. J'arrête toutes mes mauvaises relations qui me corrompaient. Je vais prier pour eux peut-être. Peut-être que plus tard, quand je serai plus fort, je retournerai les voir. Mais je vais arrêter toute présomption, je vais avancer humblement vers mon Dieu. C'est ça le vrai discernement. Le discernement amène la repentance. Le discernement ramène Dieu. C'est pour ça que je n'ai jamais perdu. Même si quelqu'un était bien enseigné et qui s'égare, ne paniquez pas. Priez. Priez et attendez-vous à l'œuvre de Dieu. Et Dieu a donné une conscience à chacun de nous. Et il y a quelque chose à un moment donné qui se passe dans cette conscience. Et qui ne nous appartient pas. Il faut accepter l'autonomie de chaque individu. Et l'autonomie de Dieu aussi, qui intervient dans chaque individu. Alors, la réflexion, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, et évidemment, quand le jeune homme a compris où était sa voie, il faut qu'il apprenne à connaître Dieu, apprenne à connaître ses ordonnances, ses enseignements, et réfléchir pour être responsable, à son tour après, d'enseigner d'autres, d'apporter aux autres. Vous voyez la base, le paquet de l'enseignement dans une famille, il est là. Alors passons au verset 5, que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ça va toujours avec la fin du verset 4. Hein, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. C'est toujours de la réflexion aussi, à la fin du verset 4. La crainte de l'Éternel est commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand vous voyez un enfant, un fils ou une fille, qui s'est égaré, qui a été très loin, puis que vous vous rendez compte après coup, vous n'arrivez pas à maîtriser ce qu'il fait, hein. Et puis il vous cache des tas de trucs, et vous ne pouvez pas. À la limite, il vaut encore mieux ne pas montrer qu'on veut savoir. Hein, parce qu'autrement, ça réchauffe le péché, hein. Ça le galvanise. Et pratiquement, en priant, on se rend compte à un moment donné que la personne, elle est retournée vers des enseignements, elle repense à des choses, et elle a des songes, elle a même des rêves. Il y a quelque chose qui se passe, les énigmes, etc. Et puis, elle va retourner un jour vers un texte ou l'autre, et toute la lumière va venir. Je pense que la lumière de Dieu est intense, mais que pour le pécheur, il ne la fait pas trop forte. Sinon, il serait tué. Il la dose en fonction de l'avancement de la personne. Quand naît la crainte de l'Éternel, naît la science, la connaissance de Dieu. Quand on refuse la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on devient insensé dans le verset 7, on méprise tout ce que Dieu peut nous dire et nous enseigner. Ça, c'est clair, on ne pourra rien faire contre ça. C'est... Il n'y a que Dieu qui peut changer ça. À tout âge, hein. Ce n'est pas qu'une question de jeunesse. Allons au verset 22. Plus on avance aujourd'hui dans notre société, plus vous vous rendez compte que les choses, les inepties s'accumulent. Eh bien, c'était déjà du temps d'Ésaïe, des prophètes, de tous les prophètes, d'Enoch même. Verset 22, chapitre 1, verset 22. Jusqu'à quand ? Proverbe 1, 22. Stupide, aimerez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? Et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. J'étais profondément attristé un jour, dans un magasin, je trouve un folder, un petit folder, d'un patron ici qui n'est pas loin, d'un mouvement de jeunesse, où, pour une fête générale, une invitation des parents et de tout le monde, il y avait 52 bières à goûter, plus un tas d'autres, peut-être encore une centaine en plus, mais des bières de grand choix, 52 bières. Tout était centré sur cette rencontre. Moi, j'ai fait du mouvement de jeunesse, pas trop, j'en avais fondé un pour les deux villages ici. Nous n'avons jamais, jamais fait la promotion de la chope, de la bière, rien. Toutes nos activités tournaient sur l'animation des enfants, des jeunes, et si possible sur le champ, la découverte de la nature. Il arrivait que je faisais des retraites à droite et gauche avec les dirigeants, les plus grands, pour leur faire connaître Dieu, et puis je voyais bien qu'il y en avait qui crachaient dans la soupe, d'autres pas. Hein. Mais ce qu'il y a, jamais on en arrivait là. Et je vois que, j'avais 20 ans, donc c'est 50 ans après, tout tourne alentour de la chope, mais... C'est quoi ? Vous savez bien que quand les hommes ont bu, quand les filles ont bu, après il n'y a plus qu'à faire des discos. Il n'y a plus qu'à faire des... mettre des grands... louer des tentes, et puis faire des grosses jabas, boum, boum, toute la nuit. Et c'est ce qui se passe dans toute la région. C'est l'amour de la stupidité. C'est carrément les insensés haïssent la science. Et pourtant Dieu est patient. Et nous chrétiens, nous devons être patients. Nous devons ramener de toutes ces personnes à la vérité. Alors Dieu annonce quelque chose de très fort pour tous ces insensés. Au verset 27, « Quand la terreur vous saisira comme une tempête, que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. » Il y a tôt ou tard des tribulations qu'attendent le pécheur. Tôt ou tard. Vous ne faites pas d'illusions. Si vous avez été dans le péché, vous avez bien vu, vous avez connu les tribulations. Et ça fait mal, hein? Alors, on connaît la détresse et l'angoisse, et fondront sur vous. C'est brutal. On n'arrive pas plus à résister. Et c'est une puissance. Et pratiquement, ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Qu'est-ce que fait Dieu ? Il nous laisse, et il laisse le pécheur tout un temps considérer la gravité de ses égarements et de ses mauvais choix. Il le laisse dans l'affliction. Pourtant, Dieu aime celui qui est dans l'affliction. Il aime celui qui souffre. Ça rejoint encore tout à fait ce qui a été enseigné tout à l'heure par Michael dans les psaumes. Et on sait très bien qu'ils ne vont pas trouver Dieu au fond de leur panier, au fond de leur misère. Sauf s'ils rencontrent tout d'un coup un enfant de Dieu qui passe par là, quelqu'un dans le bus, quelqu'un à un arrêt de bus, quelqu'un au boulot. Quelqu'un dans un bistrot, hein, pas pour se faire une tamponne, mais là, pour rencontrer les autres. Et moi, j'aimerais bien pouvoir refaire ça d'ici un an ou deux. J'allais là pour voir, hein, pour rencontrer des gens. Ben oui, il y en a qui ne viendront jamais ici, il faut aller les trouver. Il faut attendre que tout le monde arrive ici pour servir Dieu. Alors pratiquement, il y a... quand sur le chemin il rencontre quelqu'un qui n'est pas comme les autres, avant il s'en moquait, mais ce jour-là il ne s'en moque plus. Il s'intéresse à lui, il le regarde comme un martien, et puis il se dit, mais celui-là il est gentil avec moi, celui-là il essaye de me comprendre, et puis il m'écoute. Et puis je me sens mieux quand je suis avec lui. Oh, si je pouvais le retrouver, le rencontrer de nouveau au magasin où j'ai vu cette personne-là, à la poste. Moi je vois ça sur la tête des gens à la poste. J'étais à la poste de Lexi hier, je vois leur tête. Quand je m'adresse à eux, je leur dis bonjour et j'essaie toujours un petit peu de dire un mot gentil à tout le monde. Eh bien, pratiquement, je vois leur tête, leur réaction. Mais il y en a qui ont besoin de ça, on le sent. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ça m'a frappé. Je démarrais ma voiture de la poste et puis il y avait une femme là. Elle me regardait. Elle était au bout de tout. Au bout de tout. Je dis, Seigneur, mon Dieu, prends pitié d'elle. Prends pitié d'elle. Elle est partie. Prends pitié d'elle. Seigneur, est-ce que je retrouverai? Seigneur, est-ce que tu la remettras sur mon chemin? Je prie pour ça. Et je vous demande de prier pour ceux que vous regardez. Et vous verrez que si vous avez le regard que le Seigneur a sur eux, quand ils sont au fond de la détresse, au fond de l'angoisse, qu'ils n'ont plus de solution, si vous avez prié pour eux, demandez à Dieu de les remettre sur votre chemin. Demandez-leur. Alors, vous voulez qu'on s'arrête ensemble, qu'on s'asseye un quart d'heure ou... vous voulez venir une fois une rencontre? Quand Annette qui est absente aujourd'hui, était dans le marasme le plus profond, elle a pris son vol moteur, un marasme épouvantable. Elle a pris son vol moteur, elle a été chez une dame qui était chrétienne. Et puis la dame partait. Elle a dit, je ne peux pas vous recevoir. La pauvre Annette était au bout du rouleau, au bord du suicide. Et la dame lui dit, je vais à une réunion d'évangélisation, vous pouvez venir avec si vous voulez. Tout d'un coup, elle se ressaisit, au lieu de dire, je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui. Et Annette monte dans l'auto, sans savoir ce que c'est qu'une réunion d'évangélisation, je vous le dis, moi. Elle était loin du compte. Et pratiquement, elle l'écoute. Quels sont les effets? Je n'ai pas mis un galvanomètre entre ces deux pieds ou ces deux mains pour savoir ce qui se passait, ou des bigoudis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, tout d'un coup, j'avais rencontré sa sœur à Bruxelles, avec qui j'avais sympathisé dans un ministère. Elle était chef d'un cabinet, et j'y avais été la voir pour des choses assez importantes, et pratiquement, elle avait parlé de moi à Annette. Alors Annette s'est mise à chercher, comme même ici la tête chercheuse, après un certain Jean Bayeux. Et puis elle est venue me trouver, et c'est vous, monsieur Bayeux, est-ce que je pourrais vous parler? Je suis parti à une petite table. 20 minutes après, elle était convertie. 20 minutes après. Elle est toujours là dans l'église, sauf quand elle a des coliques et qu'elle est malade. Mais elle y est de cœur. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que quand la terreur vous saisira comme une tempête, verset 27, que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Mais attention, c'est pour un temps. C'est pour un temps, parce que Dieu ne rejette pas le pécheur. Il veut tester si réellement on le désire, on le veut. Ils me chercheront, ne me trouveront pas. Alors, parce qu'ils ont haï la science, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dénié toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, la sécurité des insensés les perd. Tiens, on peut mettre ça dans tous les journaux, on devrait mettre ça à chaque émission à la TV. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance et vivra tranquille sans craindre aucun mal. Voilà ce qu'il faut apprendre aux enfants dans l'éducation. Voilà ce qu'il faut apprendre aux jeunes gens et aux jeunes filles avant de commencer à se lancer dans une aventure, des amourettes, ou un mariage, ou un travail. Ça doit être fait avant. Ça doit être enseigné avant. Si possible. Autrement, il faudra rattraper, mais Dieu te rattrape toujours. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une mission ici. Nous avons une mission. Une très grande mission. Au chapitre 2, verset 10, « La sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. » Vous voyez, au début, hein, c'est un objectif. Maintenant, c'est une réalité. Au chapitre 1, c'était un objectif. C'était une demande de Dieu. C'était le but à atteindre. Et au chapitre 2, verset 10, je vais bientôt finir. La sagesse viendra dans ton cœur, la connaissance fera délice de ton âme, la réflexion veillera sur toi. Vous rendez compte, la réflexion veille sur nous. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie chrétienne qu'à un moment donné, puis tout d'un coup on commence à réfléchir. Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bah, où je vais là? Qu'est-ce que je suis encore en train de penser là? Qu'est-ce qui se passe? La réflexion est un don de Dieu. C'est Dieu qui rallume, qui pousse sur les boutons, parce qu'on fait l'ignare, le stupide. Vous avez vu le chapitre 2 quand même. Jusqu'à quand aimeriez-vous la stupidité? À un moment donné, quand on a scellé une alliance avec le Seigneur, qu'on a donné sa vie à lui, il dit, ça y est, il va encore retomber dans la stupidité. Oh, il pousse sur les boutons. C'est lui le berger de nos âmes. Alors, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Ok ? Il faut faire attention. C'est les clés. Les clés sont données au départ du livre des Proverbes. On reviendra sur l'éducation. Je reviendrai à ça de manière plus méthodique. Mais je voulais donner un point de départ. Nous avons en face de nous un Dieu qui a un programme d'éducation pour nous. Nous avons en face de nous un Dieu qui a un programme d'instruction, un programme de réflexion. Et des greniers pleins de dons. Des greniers avec des dons, pour réaliser son programme. Et c'est à nous de les accepter. La sagesse est d'accepter. Les dons de Dieu. La sagesse est d'accepter le programme de Dieu sur nous. La sagesse est d'accepter les enseignements de Dieu. Voilà. Nous allons prier. Si vous avez des réflexions à faire, des partages à faire, je vous invite à le faire. Prenons 10 minutes ou un quart d'heure. Si vous voulez bien, vous direz un petit peu si vous avez un témoignage.